RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Vous avez encore 15 minutes devant vous pour m'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez une semaine de vacances dans l'un des clubs Bellambra, des plus beaux endroits de France. C'est à vous de choisir votre destination. Vous partez en famille, vous partez entre amis, vous faites ce que vous voulez. Vous aurez le choix parmi les 50 clubs Bellambra. Vacances par SMS au 732-16. Le gagnant tout à l'heure avec nous à 11h20 en direct dans les GG. C'est l'heure du à vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
Vous avez choisi parmi nos deux thèmes de discussion, vous avez choisi que l'on continue de parler des retraites, des lycéens qui veulent manifester pour leur papa et leur maman. Est-ce que vous les comprenez? On vous attend au 32-16 pour en discuter avec nous. On va retrouver justement Alfred Orange devant un lycée parisien bloqué. Le lycée Racine, Alfred.
Exactement, devant ce lycée où il y a encore une cinquantaine de personnes, beaucoup avec des bonnets, des capuches noires. Le lycée, lui, il est bloqué. Hein. Il y a des poubelles, des chaises, des pancartes, la retraite ou la retraite. Voilà ce qu'on peut lire devant ce lycée Racine, complètement bloqué. Et puis sous la surveillance de policiers qui surveillent un peu ce qui va se passer. Parce que ces lycéens, ils ont prévu de partir dès midi en manif sauvage pour rejoindre le cortège, la mobilisation d'Italie. Donc on est en train d'attendre de voir ce que vont faire ces lycéens. Pour le moment, l'ambiance, elle est plutôt bon enfant. Il y a des chants aussi au gouvernement, aussi à la retraite, mais pas d'incident notoire à relever.
Alfred Orange, donc devant ce lycée Racine bloqué par des jeunes. Écoutez d'ailleurs ce que disait un membre de la FIDEL, de la Fédération indépendante des lycéens. C'était hier sur le plateau de BFM TV, de BFM Story avec Olivier et moi.
Les lycéennes et les lycéens sont complètement concernés. On parle avec eux et en fait, nous, les témoignages qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas envie de voir leurs parents qui sont déjà essoufflés travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, parce qu'on parle quand même de 43 annuités.
Vous manifestez pour vos parents ?
Tout à fait. On manifeste en réalité, oui, pour nos mamans, pour nos papas, mais aussi directement pour nous. Il y a quand même 18% de chômage aujourd'hui chez les jeunes. On est une génération qui est solidaire et on pense aux plus pauvres de ce pays. On pense à nos parents et c'est pour ça qu'on va se mobiliser.
Voilà, la mobilisation pour leur père et leur mère qui voient trimer.
Oui, les syndicats lycéens qui ce matin annoncent, selon leur décompte, qu'il y aurait 200 lycées bloqués en France, dont une trentaine en région parisienne. Alors 200 lycées sur 3720 lycées publics en France, ça fait 5,37%, donc c'est assez peu. Et ce sont des chiffres donnés par les syndicats, mais ils disent que des lycéens seront quand même plus nombreux dans la rue cet après-midi que le 19. Pour l'instant, les étudiants ne se mobilisent pas non plus beaucoup dans les facs. Vous êtes d'accord avec cet argument, ce jeune de 15-16 ans qui dit « moi, si je suis dans la rue, c'est pour papa et maman ».
Bruno ?
Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire que on en parle depuis un bout de temps, mais les gamins, ils ont vu leurs parents, alors peut-être pas dans le troisième moyen. Ouais, ils ont vu leurs parents trimer, partir très tôt le matin, revenir par le soir.
Il y a beaucoup d'ouvriers dans le troisième arrondissement, ouais. Paris.
Oui, c'est ça. Dans le temps troisième, peut-être pas trop. C'est vrai que c'est pas le
des usines.
Oui, des usines. Il y a beaucoup d'usines métallurgiques, tout ça.
Non, c'est mais
c'est
à ciel ouvert.
Oui, c'est ça. Non, mais je pense que après, quand lui, ce gamin-là, il représente d'autres gamins et ce qu'il dit, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai.
Toi, ça choque pas qu'il soit dans la rue, qu'il se mobilise. Ah non, mais même s'il est pas directement concerné par cette réforme des retraites.
Moi, 14 ans, j'étais dans la rue. Bon, après, c'était Devaquet, ça me concernait
de
aussi.
Devaquet, ça te concernait plus.
Voilà, mais j'étais dans la rue souvent. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait participer à beaucoup de manifs. Parce que déjà, je trouvais que...
Dès 14 ans, toi, tu étais dans la rue, toi.
À 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire?
Non, j'étais à Paris, j'étais à Rueil-Malmaison.
Et à 14 ans, déjà,
à Rueil-Malmaison. Ça devait détonner à Rueil-Malmaison.
Mais donc, t'es un militant de toujours, quoi.
Ouais, j'ai toujours milité, mais parce que j'étais conscientisé aussi dans ma famille et tout. Mais après, d'un autre côté, mais je me suis toujours senti, après, je vais pas raconter, mais devant les injustices, j'aurais été un truc. Et là, je pense que ces enfants sont comme ça. Enfin, ces enfants, je devrais même pas dire ça. Ces jeunes hommes et femmes, je pense qu'ils sont ça. Ils ont vu leurs parents trimer. Je pense qu'à un moment donné,
Je pense pas que certains petits gamins des lycées sélectes aient vu leurs parents trimer. En revanche, ils ont peut-être un niveau de conscientisation politique plus avancé. Là, on a un représentant syndical. La FIDEL, c'est un syndicat lycéen, donc il est très politisé. Il y a derrière quand même aussi des politiques, des syndicalistes politisés et idéologisés qui viennent le nourrir intellectuellement et politiquement. Et c'est normal. Je suis désolé, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on entre dans le militantisme politique et aussi dans sa citoyenneté.
Et après, on finit ministre.
Peut-être. Non, où on finit à la mairie. Des fois, on finit à la mairie de Paris.
Ou à la mairie de Paris, oui.
Mais, non, mais il a raison de se conscientiser politiquement et donc de défendre les enfants des travailleurs de première ligne qui, eux, sont dans la France périphérique ou dans les banlieues, qui, eux, n'ont pas forcément ce degré de conscience politique et qui, dans certains bahuts, vont pas forcément se mobiliser.
Donc, c'est toujours les bourgeois qui font la révolution pour les autres. Parce
oui, je ne veux pas revenir à ma révolution de 1789, mais excusez-moi, qui étaient les députés du tiers état aux états généraux du 5 mai 1789 qui se sont ensuite constitués en Assemblée nationale. C'était pas les ouvriers agricoles. C'était les gros fermiers qui étaient d'ailleurs parfois plus riches que les nobles.
Là, en région parisienne, les avocats, ceux qui sont les lycées qui sont bloqués, c'est les lycées du centre de Paris. Et en revanche, les lycées de banlieue où là, sans doute, les enfants ont des parents qui sont aides-soignants, qui travaillent dans le BTP, qui sont au chômage, eux se mobilisent pas.
Et ben voilà l'échec de l'école de la République, parce que l'école de la République, justement, son travail, c'était de conscientiser les classes populaires, et elle ne le fait pas, et elle ne le fait plus.
Non, mais c'est former des grévistes.
Non, mais c'est tragique, parce que ce que produit aujourd'hui l'éducation nationale, c'est des gamins qui pensent que la Terre est plate. Alors, excusez-moi, mais dans les années 70 et 80, l'éducation nationale, elle conscientisait aussi intellectuellement un peu les gens, et certains devenaient syndicalistes, d'autres votaient. RPR, je dis, on s'en fout de ce qu'ils votaient, mais au moins il y avait une conscience politique. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi la conscience politique? C'est TikTok. Alors excusez-moi.
Une jeunesse, justement, TikTok, c'est
Une fois qu'il y a des gens qui se conscientisent, c'est bien.
Qui est univoque. Il y a toutes les jeunesses. Il y a des jeunesses effectivement politisées à l'extrême gauche. Il y a des jeunesses qui sont productivistes. Il y a des gens qui veulent juste gagner leur vie. Ouais. Qui sont très à l'aise dans un monde
libéral.
Il y a même la jeunesse avec Macron.
Cette jeunesse-là, elle te plaît.
Des jeunesses qui ont plus envie d'être Bernard Arnault que
ou Bernard Tapie. Exactement. En revanche, ça pointe quand même globalement qu'il n'y a pas eu un sujet. Et c'est peut-être là où on peut se rejoindre. Il n'y a pas eu ce sujet, y compris dans la présidentielle. Ce sujet du modèle social qu'on veut construire, il n'a pas été adopté. À chaque fois, on est entré dans des réformes sectorielles, assurance chômage, les retraites, par le prisme budgétaire. Quand tu fais ça, tu ne parles pas du travail, tu ne parles pas de société, tu ne parles pas d'équilibre intergénérationnel. Et ça ressort un peu là-dessus. Mais honnêtement,
Mais ces jeunes qui manifestent, ça te fait sourire?
Non, mais tu sais, je sais pas, c'est Cocteau qui disait que la jeunesse, c'est d'abord ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Donc, ça fait partie un petit peu de la jeunesse.
Ah oui, c'est normal.
De s'opposer, d'être en réaction avec ses parents. Donc, bon, voilà, je constate.
Ah là, non, ils sont pas en réaction avec leurs parents, ils manifestent pour leurs parents, c'est ça?
Dans le troisième, ils sont peut-être en réaction avec leurs parents quand même. Voilà,
tant que tout ça est fait sans violence, moi je trouve que c'est bien. Tant qu'on n'entraîne pas ces gamins dans une forme de revendication violente et qu'au contraire.
Tant qu'on nous fait pas croire que c'est la jeunesse.
Exactement.
C'est une jeunesse. Une jeunesse un peu privilégiée.
Mais oui,
parisienne.
Ils participent à la conscientisation politique et moi je préfère que ce soit eux qui soient dans la rue plutôt que des gamins instrumentalisés par des associatifs dans certains quartiers. Excusez-moi. Il vaut mieux que ce soit ces jeunes-là. Je préfère qu'ils soient conscientisés par des syndicalistes,
mais
conscientisé par on ne sait quel groupuscule dans certains quartiers.
Cela dit, après, tu peux faire un calcul tout bête. C'est-à-dire, c'est une jeunesse à qui on dit qu'il faut faire des études pour trouver du boulot. Donc, à 15 ans, je pense que tu peux faire le calcul de dire j'entre sur le marché du travail à 23, 24 ou 25 ans, je rajoute 43 et j'en sors à 68.
Mais c'est une jeunesse qui sera centenaire aussi. Enfin, toi,
ça dépend ce que tu prennes de la coque comme pèlerin.
Non, mais peut-être.
Je ne souhaite pas d'être centenaire. Hein.
Parmi ces jeunes, il y aura beaucoup de centenaires.
Parce que bonjour, comment ils vont vivre?
Bien sûr, bah oui, mais après, voilà, c'est la question. Mais je pense que quand t'es à l'école, déjà, t'es parfois un peu gavé, tu vois, l'école de faire 8h, 17h. Tu dis, ah putain, le mais si!
T'as oublié tes 15 ans. Mais sincèrement, à 15, 16 ans, tu pensais à la retraite?
Non,
je dis pas. À 15, 16 ans, pour toi, la retraite, c'était la mort. Enfin, c'était
Tu vivais pas la même époque.
À 15, 16 ans, t'es immortel.
Tu vivais pas dans la crise climatique.
Je rigole ou quoi? Moi, je suis là un enfant, justement, du chômage massif. On m'a dit toute ma jeunesse.
C'est pas ce que je dis.
Il y a du chômage, faut bien travailler à l'école, sinon tu seras au chômage, etc. Là, tu confonds.
Et maintenant, c'est non seulement tu seras au chômage, mais en plus, tu
peux vivre.
Mais aujourd'hui, en plus du spectre du chômage, t'as la crise climatique.
Il y avait 3 millions de chômeurs.
C'est pas ce que je dis. J'ai pas dit ça. J'ai dit nous.
Et il y avait le sida. Enfin, il y avait aussi les problèmes de l'époque.
À l'époque, déjà, on parlait pas de la réforme des retraites. On pensait à trouver du boulot et à simplement, entre 15 et 18 ans, à dire vite que j'ai le permis et ensuite vite que je bosse. Je dis simplement qu'aujourd'hui, eux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui s'informent aussi, on leur dit, vous allez bosser 43 ans. Je dis simplement, voilà. Ils font peut-être aussi un calcul un peu basique de dire, j'arrêterai de bosser à 68 ans. Et ça, c'est quelque chose, un argument qu'ils peuvent entendre. Alors, ils pensent peut-être à leurs parents.
Alain a raison, parce qu'en plus, il y a un rejet de la société qu'on leur propose.
Voilà.
Que les adultes leur proposent. Donc, je pense que les gamins, ils disent pas 15 piges. Peut-être qu'il y a 15 ans, tu commences à vouloir. Après, bon, voilà, ça dépend.
Tous les jeunes rejettent toujours la société qu'on leur propose.
Non,
on vit sur un fantasme.
Oui, mais
il y a des jeunes qui sont très à l'aise dans la société qu'on leur propose.
Ils
vont reproduire les mêmes
Attention, Jean-Baptiste, ils sont en rejet de la société dans laquelle ils vivent, mais ils sont en convergence avec un certain nombre d'adultes et de personnes même âgées qui leur disent oui, vous avez raison, parce que la société dans laquelle nous vivons et que nous avons nous-mêmes fabriqué, nous les boomers, je veux dire, un mec comme Mélenchon, c'est lui qui a fabriqué la société aussi dans laquelle on est, et pourtant il te dit aujourd'hui,
il
diffuse un discours qui est de dire vous, la jeunesse, vous avez raison, ne perpétuez pas le modèle pourri qu'on a mis en place. Donc attention, là, il y a une convergence justement entre les anciennes générations et les nouvelles.
Les gamins, ils n'aiment pas la société qui arrive, et même peut-être les fils d'Arnaud.
Mais ça a toujours existé.
Oui, mais c'est normal. Mais moi, je trouve intéressant qu'ils manifestent, qu'ils donnent leur avis et qu'à un moment donné, on les écoute aussi.
Tanguy est avec nous. Tanguy, bonjour.
Oui, bonjour les
Tanguy du Val-de-Marne, taxi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse alors qu'ils se bat pour papa et maman? Alors, dites-moi.
Moi, c'est simple, j'ai trois enfants. Moi, le premier qui dit qu'il va me laisser, je mets un coup de pied derrière. Le premier qui va manifester, je mets un coup de pied derrière.
Ah, ok.
Parce que c'est simple, moi, il y a un truc dans la vie, on fait des choix et on est tributaire de nos choix. Moi, je me lève chaque matin très tôt. D'ailleurs, ce matin, je les accompagne tous les trois à l'école. Parce que c'est une école privée, c'est vrai, j'ai peut-être les moyens de le faire, mais c'est ce que je travaille beaucoup pour le faire. Et donc, je les ai mis dans une école privée depuis la maternelle. Moi, je travaille à la fois pour mon avenir, pour mon quotidien et pour leur avenir. Donc, eux, ce que je leur demande, c'est qu'ils fassent le nécessaire pour s'assurer aussi leur avenir. Donc, allez manifester. Moi, je peux comprendre effectivement que certains parents qui ont fait des activités très dures et que à l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner, si c'est un qu'on peut travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est simple, je regardais, moi c'est 67 ans et un mois pour avoir ma retraite à tout point. Ça me fait pas peur d'aller travailler, je me lève chaque matin, je travaille 10 à 10 heures dans ma voiture, et c'est pour autant, je me sens pas malheureux. Donc je pense que, même mon père aujourd'hui, il a arrêté à 74 ans l'année dernière, et il a travaillé plusieurs activités. Je pense que dans la vie, on vous demande, allez, chaque fois si on vous demande de travailler quelques mois, voire...
Mais Tanguy, vous, c'est votre choix. On ne vous a jamais empêché de travailler jusqu'à 70 ans. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et la loi. Non, attendez. Laissez-moi juste vous poser cette question.
Non.
Laissez-moi juste vous poser une question, Tanguy.
Il parle de formation, il parle d'éducation. Il dit, il vaut mieux que mes enfants travaillent à l'école plutôt que d'aller manifester à 15 ans.
Là, il est en train de nous expliquer. Là, il est en train de nous expliquer que son exemple vaut pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, je travaille jusqu'à 67, mon père jusqu'à 74. Très bien. Moi, je vous ai expliqué que mon père, il avait travaillé. Mais mon père aussi, il a travaillé 50 plus. Mon père, il a travaillé 50 plus. Mais il y a des gens aujourd'hui, Tanguy.
Attention.
On n'est pas plus dans la même activité toute sa vie.
Vous rendez compte de ce que vous dites? À 50 ans, quand on veut se reconvertir, vous trouvez pas de boulot. Moi, je vais vous dire, j'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'en trouve pas du boulot dans la branche que je veux.
L'entrepreneuriat, c'est possible.
Mais l'auto-entrepreneuriat,
c'est pour tout le monde.
Arrêtez de l'engueuler, enfin, c'est dingue.
Non, mais c'est vous.
Je prends un vélo, je vais
prendre un
vélo. Vous engueulez Tanguy qui dit des choses très claires.
Tanguy, il dit
que lui, c'est le travail qui l'a émancipé.
C'est ses valeurs.
Oui, mais c'est ses valeurs. Et pourquoi vous lui. Alors, c'est marrant parce que quand d'autres nous expliquent que le droit à la paresse est formidable, alors là, il faut ça et ça.
Mais c'est pas ça, c'est que ce qu'il est en train de dire.
On a Tanguy qui dit que le travail.
Mais ce qu'il est en train de dire,
c'est le général de son
côté. Mais qu'est-ce que c'est la reconversion? Putain, mais il y a un moment, vous parlez de trucs que vous connaissez même pas.
Moi, j'en fréquente plein. Qui ont fait leur conversion, c'est pas simple.
Aujourd'hui, je suis dans des formations où les trois quarts des gens qui sont avec moi, c'est des gens qui ont 40-50 ans, qui sont en reconversion. C'est la galère absolue. C'est la galère pour se financer. Moi, je finance moi-même mes formations. C'est la galère pour trouver du boulot. Et j'ai des diplômes. J'ai 2 bacs plus 5. Et j'en trouve pas du boulot. Et pourtant, c'est un secteur soi-disant porteur, la condition animale, etc. Donc, c'est pas vrai. Retrouver du boulot, c'est difficile. Faire des formations, c'est difficile. Et les gens qui sont bien dans leur boulot et qui te disent, oh, vous avez qu'à vous reconvertir, c'est facile de trouver du boulot. Il y a du boulot, il y a qu'à se pencher, traverser la route. Non, c'est pas vrai. Donc, je suis désolée. Moi, j'ai pas démissionné de l'Éducation nationale. Pas pour rien.
Merci.
Parce que si ça se trouve, j'ai été obligée d'y retourner. Pour pouvoir chauffer la marmite. Donc, il y a un moment, faut arrêter de faire croire que se reconvertir.
Il fait pas croire.
C'est ce qu'il dit, c'est pour ça que tu
fais un cas particulier, un cas général. C'est pas ça.
Oui, mais c'est pareil aussi. Que Barbara qui fait un cas particulier, un cas général.
Non, je raconte pas plein d'histoires. Je suis avec des gens.
Mais bien sûr.
Je suis avec des gens comme ça.
Qui se sont reconvertis, qui sont aussi épanouis. J'ai pas que c'est simple.
Moi, j'ai des collègues profs qui sont encore en galère. Ça fait 2 ans qu'ils sont dispo, qu'ils essaient de se reconvertir. Ils vont pleurer au rectorat. On leur dit ah ben non, mais vous n'avez qu'à démissionner. Ils essaient de trouver des boulots. Ils en trouvent pas. Donc, excusez-moi.
On va passer par les Pyrénées-Atlantiques, retrouver Cédric. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour.
Cédric, c'est vous qui avez été tiré au sort et qui gagnez les vacances, Cédric.
Ouh, ça va faire du bien.
Ah bah, tu m'étonnes, Cédric. Cédric, les vacances, une semaine dans l'un des clubs Bellambra, en famille ou entre amis. Comme vous voulez, mon cher Cédric. En famille, est-ce que vous avez une petite idée, mer, montagne, campagne, dites-moi tout.
Ouais, je suis au bord de la mer et au bord de la montagne, donc je... Non, mais la mer, mais un petit peu...
Est-ce que vous connaissez la Corse?
Mais non, mais j'y suis allé il y a très longtemps, j'avais passé un agréable séjour, donc on va essayer de retourner là-bas. Ouais.
Ah ben voyez, vous pouvez avoir Propriano, par exemple, ou Borgo, encore. Vous avez le Var aussi, c'est de l'autre côté, la presqu'île de Gien, c'est magnifique.
Ah, ça y est, ça y est, ça y est, Olivier.
On va décider ça en famille, et puis on...
Le VRP.
Bah oui, parce que vous nous appelez des Pyrénées Atlantiques, donc je vous conseillerais pas les Pyrénées Atlantiques, quoi. Donc c'est pas grand chose.
On est bien, c'est vrai qu'il y a de belles choses ici. Quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Profitez bien de ces vacances, mon cher Cédric, dans tous les cas. Oui. Profitez
Merci
bien.
Merci à vous, bon courage pour tout et bon courage à ceux qui manifestent. Je les soutiens, voilà. Moralement, moi je suis petit commerçant artisan compliqué, ils se battent un peu pour tout le monde, donc. Des fois, je suis resté bloqué ce matin au rond-point, mais j'ai pas trop gueulé. J'ai tenu bon et j'ai dit, voilà, ils se battent un peu pour tout le monde, donc c'est cool.
Merci Cédric d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout de passer de bonnes vacances. Tiens, tout à l'heure, on évoquait dans quel état on sera à 67, 70 ans grâce au montage FaceApp et autres. Regarde, la simulation. Regarde,
oh, la vache.
Quand j'aurai 70 ans, je continuerai d'animer les grandes gueules.
Il y a du André Dusselier.
Non, mais là,
on va la mettre sur les. C'est moi.
Ce qui te sauve, c'est que t'as toujours une belle chevelure.
J'ai toujours mes cheveux.
Tu pourras jouer dans le Seigneur des Anneaux, tu pourras faire
grand. Tu ressembles à Pierre Billon. Vous voyez qui c'est, Pierre Billon?
Ah oui, il y a un peu
parolier de Sardou, de
Pierre Billon et Jean Marais. Il y a entre les deux. Voilà.
Pas plus Jean que Marais.
C'est les applis sur les iPhones.
Incroyable.
J'ai la même en complètement chauve.
Oui.
Si vous voulez, tout à l'heure.
La fin de l'émission. Vient de découvrir les photos.
Elle vient de me quitter.
Elle fait ses valises.
Si tu pouvais prendre le chien en même temps, comme ça, moi, je serais tranquille.
Oh, Lilou, la pauvre.
Allez, dans un instant, avec le GG, c'était match avec nos grandes gueules.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les grandes gueules, Bruno Poncet, Barbara Lefebvre. Nous sommes avec l'ami Jean-Baptiste Djebari. Donc vous avez entendu Barbara Lefebvre, sa reconversion dans la protection animale.
Ouais.
Donc si vous embauchez, Barbara.
C'est pas faute d'envoyer des CV.
Mais si vous. Alors. Si vous embauchez Barbara, vous n'embauchez pas la Barbara des grandes gueules.
Non,
pour vous mettre ça aussi en tête.
Non, voilà. Elle ne mord pas en privé, elle est très gentille.
Barbara, c'est quelqu'un qui est très rigoureuse, très consciencieuse et à mon avis très professionnelle. À mon avis,
juste un peu entière, par contre, ça c'est vrai.
Oui mais un petit peu fiable. Je pense qu'on veut toujours embaucher des gens quand même sur qui on peut compter.
Ah oui, ça, je suis fiable.
Et si ça peut être un chenil d'extrême gauche, c'est encore mieux.
N'importe quoi.
Un chenil halal, le plus pour Barbara.
Par contre, il y a des refuges animaliste et vegan, oui, tout à fait. Je rappelle le refuge Groingroin, qui est là où j'ai ma petite barbotine.
Ah.
Et voilà, je suis marraine d'un petit cochon.
Attends, elle est vegan,
s'appelle barbotine. Non, le refuge est vegan.
Omnivore,
et les animaux ne mangent que des choses qui ne sont pas eux-mêmes animales.
Voilà. Oui, c'est ça. Donc,
oui, le refuge est vegan. Barbotine est vegan.
Elle mange du tofu, par contre.
Je connais barbotine.
Mais on lui impose pas. Elle fouine, et elle mange.
Des carottes.
On lui donne pas à manger. Elle fouine ce qu'il y a.
Bah, parce qu'un cochon, c'est omnivore.
Exactement.
Voilà, elle mange ce qu'il y a.
Donc, omnivore, par définition, tu dois aussi manger de la
viande. Si elle mange des petits trucs, on va pas aller l'empêcher de manger un peu.
Le problème, c'est que ça, tu bascules dans l'enclos de barbotine, tu risques de te faire bouffer, parce qu'un cochon.
Mais justement, moi, la dernière fois, on a parlé d'un boucher, je sais plus où, dans quel pays d'Amérique du Sud, il s'est fait bouffer par le cochon qui essaie de tuer.
Bah voilà.
Allez, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Parmi les défenseurs, ceux qui sont contre la réforme des retraites, il y a tout un courant aujourd'hui qui dit que ça s'inscrit dans l'histoire où il faut aujourd'hui réaliser que le travail n'est plus la valeur cardinale qui doit nous guider. C'est plutôt moins produire, moins consommer, moins travailler pour sauver la planète. C'est notamment Émeric Caron qui le dit, le député Émeric Caron. La réforme des retraites est une question écologique, dit-il, c'est pour la planète. Aussi Sandrine Rousseau qui le dit. Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui,
on doit s'inscrire dans ce nouveau mouvement, moins produire, moins consommer, moins travailler. Une équipe dit oui, une équipe dit non. L'équipe qui dit non, Jean-Baptiste et Olivier. L'équipe qui dit oui, Barbara et Bruno. Bruno, c'est toi qui donne le coup d'envoi. T'as 60 secondes, c'est parti.
Alors après, il est évident que dès que Sandrine Rousseau et Émeric Caron posent quelque chose sur la table, ils sont tellement clivants que la plupart des gens ne voient que le messager et pas le message. Mais il est évident qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant le Covid, moins produire, moins consommer et moins travailler ou partager le travail permet à rendre le monde, la société, l'environnement meilleur. Et c'est comme ça. Et c'est une évidence, on l'a vu pendant le Covid. Et moi, je parlerai pas de droit à la paresse, parce que si tu dis ça, tu vas monter sur la table en disant, les gens, ils vont rien foutre. Non. Mais droit à la respiration. Je pense que ta vie ne doit pas être faite que pour travailler. Et qu'à un moment donné, si tu peux déjà dans une semaine travailler que 30, 32 heures, comme ça, tu partages le travail avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, tu fais de l'embauche. Donc, en générant de l'embauche, tu génères des revenus et des cotisations sociales et ainsi de suite. Donc après, tu mets ton système de retraite pérenne. Mais moi, je trouve qu'on a le droit d'avoir une respiration et qu'on doit avoir, on a aussi le droit à penser à une société autre que le travail, que d'aller se casser le dos dans la machine et qu'à un moment donné, on doit pouvoir vivre autrement. Et moi, je trouve vraiment que de poser ça sur la table, c'est un débat de société qui doit être de nos jours.
Réponse Jean-Baptiste Djebari.
Madame, ce qui est intéressant avec Émeric Caron, c'est qu'il adopte toujours la position de l'homme blanc, riche, occidental, qui dit aux pauvres comment il doit vivre. Et ça, c'est assez fascinant. Et en fait, les faits sont assez têtus. Mondialement, il y a une démographie qui va augmenter. Donc, il va falloir, certes, mieux produire, mais en fait, plus produire. Émeric Caron, il veut qu'on consomme moins, ce qui n'est possible que dans les pays riches auxquels il appartient. Puis, Émeric Caron, il veut quand même, globalement, qu'on ait plus de liens, mais il veut plus qu'on voyage. Donc, Émeric Caron, c'est la caricature de la bien-pensance et de l'inaction politique. Moi, je suis fondamentalement.
Mais pour être à Renaissance, alors.
Non, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler, c'est un peu ça, d'accord. Ouais. Après, le problème, c'est que Émeric Caron ne nous explique pas comment on continue à financer notre système qui repose sur le travail, puisque c'est grâce à des gens qui travaillent qu'on paye aujourd'hui les gens qui ne travaillent pas à la retraite, hein. C'est tout le débat en ce moment, le système par répartition. C'est grâce à des gens qui travaillent, je rappelle que 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des gens qui travaillent, hein. Donc tout repose finalement sur les gens qui travaillent, et c'est grâce à ça qu'on peut encore avoir des hôpitaux, des écoles, des profs, des policiers, des magistrats. Donc l'idée de moins produire, moins consommer, moins travailler, c'est aussi moins de création de richesse. Et donc s'il y a moins de richesse, ben on va tous s'appauvrir. Alors peut-être qu'on sauvera la planète, mais on sera tous plus pauvres, on sera donc moins bien soignés, on sera donc moins bien protégés, on pourra évidemment plus déplacés. Ben si, il dit. Alors, et puis, dernièrement, je termine, il dit il faut aussi répartir le temps de travail. C'est la fausse bonne idée. Tous les économistes ont démontré, les 35 heures n'ont pas créé
oui, parce
de
que
emplois
les gens
du
pas
tout.
Joué le jeu.
Le partage du travail, ça n'existe pas.
Parce
ça marche
que les
pas comme ça.
Ont pas joué le jeu,
ça marche pas comme ça. Un médecin, si, il va pas vrai. Soigner du lundi au mardi, et puis ensuite, il y a un autre médecin qui viendra le remplacer le mercredi. Ça ne marche pas comme
ça. Dans
les usines, il y a pas des ouvriers qui travaillent deux jours, et puis après d'autres ouvriers qu'il faut former, etc., qui viendraient. Ça ne marche pas comme ça.
Ça s'appelle les 3-8.
Non. Le partage du travail, ça ne fonctionne pas. Et ça a été démontré, notamment en France, les 35 heures, c'est quelque chose qui n'a jamais été copié nulle part ailleurs. 35 heures généralisées. Après, tu peux le faire par entreprise, ça, c'est autre chose. Mais 35 heures pour tout le monde, personne n'a copié le modèle français.
Il y a des pays où ça travaille moins.
Dans son tweet, Émeric Caron n'a pas dit il faut pas consommer, il faut pas produire, il faut pas travailler. Il a dit il faut moins. Vous considérez que on peut continuer à surconsommer, à surproduire, à demander à une catégorie de la population, et notamment la population des pays en voie de développement, de surtravailler pour en plus ne pas vivre correctement, parce que moi, en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, dans un pays totalitaire, il y a des gens qui surtravaillent pour en plus.
Aujourd'hui, il y a 50 ans, je suis quand même.
Ils vivent pas mieux, si tu me parles uniquement de l'espérance de vie parce qu'on vaccine, d'accord. Mais moi, je te dis, ils mangent moins bien, et en plus, il y a des maladies. Quand vous avez une entreprise comme Total qui vient s'installer en Ouganda et en Tanzanie pour aller foutre des pipelines qui sont en train de détruire l'écosystème, qui sont en train de détruire des villages et qui sont en train de détruire des sociétés, mais vous allez leur dire, mais vous serez content, vous mangerez plus de viande. C'est-à-dire qu'au lieu d'en manger.
Les Chinois vivent moins bien qu'il y a 60 ans.
Non, mais le Chinois, c'est un grave problème. Excuse-moi, 1,5 milliard de Chinois. Si tu as 1,5 milliard de Chinois qui se mettent à tous bouffer de la viande comme les Chinois de Shanghai, on va avoir un gros problème. Parce que je vous rappelle quand même que l'élevage. Non, je vous explique juste une chose. Il y a un moment donné, la planète a des ressources. Les ressources ne sont pas inépuisables. Oui. En particulier, je ne parle même pas des énergies fossiles, uniquement de la question de la ressource carnée. Vous croyez sincèrement qu'on va pouvoir faire bouffer 8 milliards d'humains à manger de la viande. Mais aujourd'hui,
pour les pays occidentaux,
aujourd'hui, l'élevage,
c'est un truc de riche. En fait, il a toujours la position de
riche. Il voit le monde depuis Versailles.
Député, Émeric Caron est député en France. Oui. Si déjà la France, qui est un des pays
français,
excuse-moi, je peux terminer. La France est une des grandes,
une des grandes
agricultures européennes. Si la France donnait l'exemple et faisait notamment une grande conversion vers le développement d'une autre forme d'élevage, un élevage qui ne serait plus un élevage intensif.
Sans doute la
je rappelle quand même
monde.
Que 8 Français sur 10 sont contre l'élevage intensif.
Donc vous n'avez pas compris que la France n'est pas une île et qu'on dépend tous les uns des autres.
Oui, c'est ça, bien sûr. Et bien justement, comme on dépend tous les uns des autres, la France, il y a eu des moments dans son histoire. Excuse-moi, Jean-Baptiste.
Mais on a fait on ne comprend plus rien là.
Bah oui, parce que je suis tout le temps systématiquement.
Mais vas-y, je sais bien. Attends, finis.
À un moment donné, il y a eu un moment où dans son histoire, la France, elle a été effectivement un peu au-dessus des autres, où elle a fait des choses qui étaient différentes. Il y a eu des changements sociétaux où la France, elle a montré une voie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas montré la voie, je suis d'accord avec toi.
Parce que c'est quand même quand la France est puissante et prospère qu'elle peut imposer ses valeurs et ses intérêts.
Alors je vais te dire, en 1789, elle n'était pas puissante et prospère. Quand elle a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'était pas puissante et prospère. La France, elle était endettée jusqu'à l'os. Elle n'en pouvait plus. Et le pays était complètement déstructuré.
C'est pas vrai, les États-Unis existaient. 1776, la déclaration.
Ils déclaraient que les hommes sont libres et égaux.
On est un empire. C'est l'idée
que on était un empire.
La France. Bah oui, on est dans un empire colonial encore, pardon.
Non, enfin, on n'était pas l'empire colonial qu'on est devenu après. C'est-à-dire que plus on a été un empire colonial, moins on a été riche, excuse-moi.
Précaire que préconise Émeric Caron, elle va imposer rien
mais
du tout.
Mais c'est pas une France précaire, mais c'est si. Juste un autre modèle de société. La question, elle est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Bruno, c'est une question de débat sur un modèle de société. Alors, vous voulez rester dans la surproduction, la surconsommation,
et continuer
à bouffer de la viande, continuer à aller produire des choses qui sont en train de tuer non seulement la planète, mais nos corps. Tu as une étude. Anglaise,
alors,
qui te montre.
On peut pas te couper parce que tu n'arrêtes pas de parler.
Je termine juste là-dessus. Tu as une étude anglaise qui te montre qu'on a une augmentation sur les 30 dernières années de pratiquement 40% des cancers.
C'est la mi-temps.
C'est dû à quoi?
D'accord. La France est l'un des pays les plus vertueux en matière d'écologie. Ça, c'est factuel d'Europe. Mais on est toujours en train de se dire, ah, nous, on est les pires. On a sans doute une des agricultures les plus vertueuses d'Europe. Oui, en France, bien entendu.
C'est
factuel. En termes d'émissions de CO2, on est plutôt un exemple.
C'est fini, c'est la mi-temps. S'il vous plaît, moins produire, moins consommer, moins travailler. Une équipe dit oui, une équipe dit non. À votre avis, qui se détache là dans le contexte que l'on connaît là en ce moment? Eh bien, vous saurez ça dans 3 minutes.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Produire, moins travailler, moins consommer, moins travailler, moins produire, moins consommer. C'est ce que dit Émeric Caron. Est-ce que c'est le modèle de société auquel on doit réfléchir? Oui ou non? Attention, on va regarder la consultation puisque on a une équipe qui dit oui, une équipe qui dit non. Qui peut l'emporter? Est-ce que c'est la team Barbara Bruno, la team Jean-Baptiste Olivier? C'est parti, on regarde tout de suite. Il y a de l'avenir, Olivier. Le souping n'est pas foutu.
Je pensais que Barbara aurait convaincu.
Non, mais 54-46.
Les gens comprennent parfaitement que votre modèle.
Je pense qu'Émeric Caron, il mettrait tout le monde d'accord si, au lieu de dire il faut produire moins, il disait il faut produire mieux. Différemment.
Oui,
ou mieux, ou consommer
mais
mieux,
ça pas
et travailler mieux. Et je pense que tout le monde est d'accord. On est tous d'accord qu'il faut produire différemment. D'ailleurs, les entreprises commencent à s'y mettre et qu'il faut consommer différemment. On essaie, par exemple, de consommer local, etc. C'est vrai, on regarde, on préfère acheter des tomates françaises que des tomates en serre espagnole. Travailler mieux, on est tous d'accord qu'il faut peut-être redéfinir le sens du travail. Il y en a marre des petits chefaillons, etc. Mais lui, il dit moins.
Parce que c'est un tweet.
Donc
ça rejoint ce que disait tout à l'heure Bruno. À partir du moment où c'est Sandrine Rousseau, Émeric Caron, il y a une espèce de réflexe pavlovien de rejet. Alors que vous voyez que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit.
Parce que
c'est ce qu'il dit, Émeric. Émeric, il dit il faut consommer différemment. Il faut avoir un autre rapport au vivant. Et le vivant, c'est pas l'autre être humain qui est en face de moi. C'est un ensemble.
On va aller dans le Loir-et-Cher. Ça vous dit? À côté de Vendôme, on retrouvait Pascal, qui est traiteur, fidèle des grandes gueules lui aussi. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Alors, est-ce qu'il a raison, Émeric Caron? On travaille moins, on consomme moins, on produit moins, dites-moi.
C'est ça, ouais, bien entendu. Ouais. Bon, moi j'ai juste une question à poser. On fait comment pour payer les retraites? On fait comment pour financer l'hôpital? On fait comment pour payer des flics? On fait comment pour payer des enseignants? On fait comment? Je veux dire, la
décroissance.
La décroissance ça détruit de l'emploi. Vous voulez un endroit où il y a... Ah ben, je vais vous donner un pays où la décroissance, elle est géniale. Venezuela.
Exactement.
Ah, ça faisait longtemps
Venezuela. Que... Venezuela. Non, arrêtez.
La mythe de Jean-Luc Mélenchon.
Arrêtez. Venezuela, là où vous avez la décroissance.
C'est vrai que c'est pas la CIA qui fout le feu là-bas.
Mais Pascal, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut produire autrement? Qu'il ne faut pas continuer à produire, par exemple, l'élevage intensif, que c'est un modèle qui doit se terminer?
Non, la production, je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va choquer, mais c'est la réalité. Le gaspillage, ça crée de l'emploi. Point final. Moi, je vous explique un truc. Oui, c'est vrai, mais c'est la réalité.
Ah, c'est mieux.
Je le gaspillage...
Attendez, écoutez-moi.
Laissez-le. Moi, je produis un produit. Demain, on dit, monsieur, on est dans la décroissance, il faut que vous produisiez 25% de produits en moins. Ok. Monsieur, bon, je reçois tous mes salariés, je dis, écoutez, je dois produire 25% en moins, donc écoutez, faites votre choix, mais il y a 25% des personnes ici qui vont se retrouver au chômage. Mes fournisseurs, je vais leur dire, ah non, attendez, le fournisseur va venir me voir, il va venir, monsieur, vous achetez, non, j'achète 25% en moins, parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on produise moins, 25% en moins. Mon fournisseur, mes fournisseurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir tous ses salariés, il va dire, écoutez, ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais mettre 25% des personnes au chômage parce que je suis obligé de produire 25%, etc.
Vous savez qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a des métiers qui ont disparu, il y a des métiers qui ont disparu au profit d'autres emplois. Et peut-être que vous avez des éleveurs qui ont envie d'élever autrement les animaux. Vous avez peut-être des agriculteurs qui ont envie de cultiver autrement la terre. Et vous avez peut-être des traiteurs qui voudraient produire des produits alimentaires de meilleure qualité et peut-être effectivement en moins grand nombre, mais de meilleure qualité.
Il faut quand même nourrir tout le monde aussi.
Tout le monde, parce que tu crois que les gens ils vont crever la dalle parce qu'ils mangent pas un bifteck haché tout pourri plein de soja les jours.
Mais si on applique ce que dit Caron, effectivement, c'est de nouveau les gens qui vont mourir de faim, ça c'est sûr. Il faut produire pour tout le monde.
Pascal pointe quand même la méconnaissance réelle des circuits économiques, des logiques d'interdépendance dans la mondialisation, y compris pour la production alimentaire, de ces députés d'extrême gauche souvent. Il y a quand même une totale déconnexion. Ces gens-là sont des bobos parisiens. On a l'impression que ça est un peu magique.
On peut citer notre ami.
Louis Boyard, notre ami qu'on connaît bien. J'entendais dire la dernière fois, permaculture, c'est génial, même pour les céréales. Ça n'existe pas. Il dit, on peut embaucher 300 000 agriculteurs en faisant ça. C'est des gens qui ne connaissent pas. C'est des gens qui vivent en ville, qui ne connaissent rien.
Tu vas pas comparer Émeric Caron qui a travaillé ses dossiers.
Ils sont dans le même groupe, à la NUPES.
Non, ça fait 20 ans qu'Émeric Caron travaille là-dessus. Tu vas pas me comparer ça avec Louis Boyard, qui connaît rien à rien.
Il compare à son collègue.
Ouais. Non, mais ça, c'est pas parce qu'à la NUP, il y a tout, il y a tout à boucher.
Je remercie Pascal d'avoir été.
Pascal, on
a compris que vous étiez contre. Voilà, au moins c'est clair. Je vous souhaite une bonne journée, Pascal. À bientôt dans les GG du Loir-et-Cher. On va aller dans les Hautes-Pyrénées retrouver Maxime qui est vétérinaire. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous êtes plutôt, vous, sur cette tendance, moins produire, moins consommer, moins travailler?
Ouais, non, moi je pense que déjà il faut modifier un peu notre manière de consommer. C'est sûr, je pense qu'on consommait peut-être trop de viande avant, mais il faut arrêter avec le côté extrême de il faut plus rien consommer, machin, tout ça. Oui, je pense qu'il faut consommer plus intelligemment.
On est d'accord.
Privilégier le circuit court.
C'est pas ce qu'on a dit.
Moi ça m'agace d'avoir des discours d'extrême où on essaie de tous être les uns contre les autres là. Je pense qu'on peut vraiment tous s'entendre et je suis désolé mais moi les éleveurs que je côtoie tous les jours il y a pas d'élevage intensif. Enfin,
ça n'existe pas en France.
96%.
Mais si,
l'élevage intensif, ça n'existe pas en France. C'est un fantasme, Barbara Lefebvre.
Allez-y, Maxime. Ils ont fait dans le Nord.
Continuez, Maxime, pardon. Maxime.
Il est parti.
Ouais, 96%, je suis navré, 96% des porcs sont élevés sur le modèle de l'élevage intensif. 84% des volailles, c'est l'élevage intensif. 99% des lapins, c'est l'élevage intensif. Et 60% des chèvres, c'est l'élevage intensif. C'est des chiffres qui sont validés par le ministère de l'Agriculture lui-même, parce que le modèle de l'élevage intensif, c'est celui-là. Moi, je suis désolée, mais moi, que vous vouliez manger de la bouffe qui vient de l'élevage intensif, il n'y a aucun problème.
Allez,
vous êtes dans l'ignorance sincère, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir exactement comment sont produits ces animaux et comment est produite cette viande. Vous, vous dites, non, moi, je regarde la pub là avec la petite biquette qui se promène dans l'herbe et les petites poules qui font cote-cote. Si vous voulez croire ce que vous vendez, l'industrie agroalimentaire, croyez-le, je suis désolée.
Alors attendez, on revient vers Maxime. C'est marrant parce que les gens qui défendent ça, c'est les gens, il n'y en a aucun qui vit dans la France rurale. parce ni que Louis Boyard, ni Imri Caron, mais
t'es déjà allé dans un abattoir, t'es déjà allé dans une ferme, t'es déjà allé visiter.
Ah oui.
Moi, j'ai passé 5 ans. T'as été visiter la porcherie de Madame Lambert.
J'ai passé 5 ans en Haute-Vienne, dans un territoire super rural, dans les lycées agricoles, auprès des agriculteurs, enfin, qui racontent. D'abord, j'ai vu ce que tu ne racontes pas. Et par ailleurs, ce sont des gens qui sont hyper engagés, y compris pour la transition écologique, qui connaissent mieux la nature que toi, qui ont déjà dans leur pratique complètement fait la transition.
C'est pas ça.
Et donc, toi, tu parles de choses sur tous les sujets.
Mais quelle est la réalité aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire? Tu la connais, la réalité de l'industrie agroalimentaire? Ce n'est pas de la vie théorique quand je te dis 96% des porcs dans l'élevage intensif.
Qui ne veut rien
non,
dire.
Je parle pour les 96% de porcs qui vivent dans l'élevage intensif.
Mais ce 96%, il sort d'où ton chiffre?
Mais c'est les chiffres officiels. C'est quoi l'élevage aujourd'hui?
Du ministère d'Emery Caron,
tu as des porcs, parce que tu as 96% des porcs en France qui vivent dehors. Ils vivent enfermés dans des stabulations sur du béton.
Mais vraiment,
arrêtez, c'est vous qui vous parlez de quelque chose que vous connaissez pas, excusez-moi.
L'agriculture française avec d'abord l'agriculture européenne.
Que c'est l'élevage de lapins.
Tu verras qu'on n'est pas si mal positionné. Va dans des pays, va au Brésil, va dans des pays qui
mais
sont
je
vraiment
m'en fous du
hyper
Brésil.
Intensifs.
Je suis en France, je m'en fous du Brésil. L'élevage au Brésil, c'est l'horreur.
Une situation atroce en France qui n'existe pas.
Mais si, ça existe, bien sûr que si, t'as été voir les élevages de lapins.
Moi, je suis
t'as vu les élevages de lapins, l'élevage intensif de lapins.
Je te dis pas que le modèle français, il est pur et parfait, je te dis qu'il est en très grande transformation et que comparativement à d'autres modèles européens et mondiaux, il est bien plus vertueux.
Alors,
tu refuses de voir ça, tu dis
Maxime. Allez-y Maxime, parce que la liaison avait coupé, donc on vous a retrouvé.
Ouais,
finissez
désolé,
votre explication.
J'ai mon téléphone qui marche pas très bien. Non, mais c'est juste pour vous expliquer là. Moi, par exemple, la situation à laquelle je suis aujourd'hui, pour vous dire à quel point quand même je suis bien placé pour parler de l'élevage. Là, j'ai mes bottes, ma blouse, j'ai des veaux devant moi qui sont, ils sont quoi ? Il y a 6 veaux dans une case qui fait 20 mètres par 5 mètres, la paille elle est nickel. Enfin, il faut arrêter avec en pensant que tous les élevages sont des élevages intensifs. Moi où je travaille, on a à peu près 8000 bovins. Ben oui, mais non.
Et
mais
voilà, vous parlez des bovins.
C'est la réalité, Barbara.
C'est le finir,
bidon.
C'est
des bovins à ma clientèle. Je fais de la volaille. Si vous voulez, j'ai un élevage à 200 mètres de notre clinique où il y a 200 poulets, ils sont tous dehors, ils ont tous accès à l'extérieur. Enfin, il faut arrêter.
Non, c'est parce que mes chiffres, ils sont exacts, 84% des volailles. Et vous parlez des bovins, parce que c'est toujours facile de parler des bovins.
Attends, allez-y, Maxime.
Mais face à la réalité, Maxime.
Mais non,
attendez, laissez-le finir.
Si, je suis désolé, parce que moi, j'y suis tous les jours, dans cette réalité-là. Il faut arrêter de croire.
Mais vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, peut-être que votre patelin, c'est pas la réalité.
Voilà.
Je pourrais vous dire ça. En fait, tu me tords le cou à la réalité.
Surtout, vous respectiez Maxime et qu'il puisse terminer, bon Dieu. Allez-y.
Voilà. Je suis désolé, moi j'ai travaillé dans le Limousin, j'ai travaillé en Bretagne, j'ai travaillé ici dans les Pyrénées, j'ai quand même travaillé dans beaucoup d'endroits en France, dans des endroits où il y a beaucoup d'élevage. Et je suis désolé, mais le bien-être animal est aujourd'hui est au centre de l'intérêt des éleveurs, de l'intérêt des vétérinaires.
Bah oui, de la FNSEA.
Tout ça. Ouais. Il faut arrêter de faire croire.
Et des vétérinaires complices des agriculteurs aussi et des éleveurs, bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Tu le traites de voyou, quoi.
Mais je suis désolé, les vétérinaires qui après des alertes viennent et vous disent, mais non, il n'y a aucun problème, on respecte le bien-être animal dans les stabulations de Madame Lambert.
Écoute. Dire que tous les vétérinaires sont.
J'ai dit que certains vétérinaires, oui, je le
là, il faut absolument que vous excusiez pour toute
notre question. Je m'excuse pas.
Désolé,
il y a des vétérinaires, y compris des vétérinaires de la DDTP, qui viennent ensuite faire des contrôles et qui disent non, aucun problème dans cet élevage, les truies en stabulation, aucun problème. Non, je suis désolé. J'ai dit certains vétérinaires et certains éleveurs.
Alors, Bruno, qu'on a plus entendu. Merci, Maxime, Max des Hautes-Pyrénées.
Non, mais je pense qu'on a un peu dévié du débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui.
De venir vers nous.
Bah, je suis à deux doigts parce que Barbara me fait peur des fois. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais elle me fait peur. Non, mais je pense qu'on a dévié du débat. Je pense que le débat aujourd'hui, il était aussi sur le moins consommer, sur le moins travailler. Et voilà, on est dans le mieux. Moi, tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé d'une société où fallait tout. Non, et je pense qu'à un moment donné, et le Covid vous l'a montré, que je pense que il faut qu'on change, parce que si on ne change pas, on va dans le mur, et le monde qu'on va laisser aux gamins de 15 ans qui sont dans la rue à côté de moi tout à l'heure.
T'as raison là-dessus, voilà. Mais c'est engagé.
Ouais, mais c'est engagé. Mais
et la France,
on est d'accord.
Mais
pour ça, il faudra de l'argent. Parce que.
L'argent, t'en auras si tu fais travailler plus de personnes.
Non,
tu le sais, ce que j'ai dit.
Pour inventer des nouvelles façons de consommer, de produire surtout, il faut de l'argent, parce qu'il faut de la technologie.
Olivier,
il faut des ingénieurs.
Olivier, tu t'entends pas depuis des années que je te le dis. Le CICE.
C'est moins d'argent.
Le CICE, c'est 40 milliards que tu donnes à des entreprises qui n'embauchent pas.
Ça, c'est la
les 35 heures. Oui, mais on est d'accord, les 35 heures, c'est aussi la gauche.
Les gens pour qui
oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est. Non, moi, j'ai jamais voté, je te dis. Les 35 heures, c'est pareil. Tu dis, tu mets les 35 heures sur la table, mais derrière, tu fais pas d'incitation à embaucher. Et donc, ils ont pas embauché.
Parce que ça se décrète pas l'embauche.
Mais non, mais vous êtes.
Dans le privé, ça marche pas comme ça.
Mais si, ça se décrète.
Mais non, chez nous, vraiment.
Je crois que t'es mûr. Mais non, c'est parce que j'entends des contre-vérités absolues.
Mais c'est normal, c'est des bons parisiens.
Regarde tous tes animaux à l'air libre qu'on entend.
Vous êtes en famille avec Caron, les deux.
Et moi, j'ai aucun problème. Les gens peuvent manger de la viande et au contraire qu'ils en mangent, mais qu'ils mangent de la viande véritablement traçable et pas seulement traçable depuis leur abattage.
J'ai envie de monter.
Soit traçable aussi. Comment ils ont grandi. Comment on n'a pas arraché un veau à sa mère.
C'est fini. On va regarder le résultat, le GG7 des matchs. Alors, qui a gagné? Moins produire, moins consommer, moins travailler. Est-ce que ça s'est inversé? Non, 56-44.
C'est déjà bien, 44%.
Non, mais je vais vous dire. Soyez honnête. Moi, tous mes fans, ils sont dans la rue, ils risquaient pas de voter. Donc là, je pense qu'on était à
80%. Ils ont pas de smartphone dans la rue.
On va se dire clairement.
C'est sûr, ils ont pas voté. Moi, ils sont
moi
pas là.
44% des gens qui consomment différemment. Mais 44%, on sauve la planète.
C'est un beau score. 44%,
ça me suffit largement.
Parce que dans ce match, les perdants se félicitent d'avoir perdu.
Allez, on se retrouve demain avec Marianne Soubré, Étienne Yibix, Stéphane Manigold. On compte sur vous. On reparlera de cette journée de mobilisation, de manifestation. Avec vous, 32-16. Ma chère Estelle, bonjour.
Salut Alain, salut les GG. Ben oui, bien sûr, c'est une spéciale mobilisation aujourd'hui sur RMC. Nous, on va se demander si le gouvernement peut gagner le bras de fer, justement, avec la rue. Et puis François Ruffin qui dit qu'il faut de la douceur. Voilà, la France a besoin de douceur.
Ça a été 3 heures de douceur aujourd'hui. C'était mousse et pampre.
Ah oui, d'accord. Oui.
C'était quoi?
Mousse et pampre.
Voilà. Est-ce qu'il a raison, François Ruffin?
Il a raison.
63% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon président. D'accord ou pas d'accord? Et puis une proposition de loi.
Tu vas avoir du mal à inverser la courbe dans.
Ouais, ça va être compliqué.
Dans ton émission.
Et puis proposition de loi pour durcir les sanctions contre les squatteurs et les locataires mauvais payeurs. Bonne ou mauvaise nouvelle? Voilà, dites-nous tout.
Cette passion marinière toujours.
Oui, toujours. Bah écoutez, c'est une tous les deux jours. C'est comme ça. C'est ma passion. Mais vous êtes là, Bruno?
C'est la mer.
Oui, je suis là, mais j'y vais.
Vous faites là? Ah bah oui, je vous disais aussi. J'étais étonné là.
C'est 14h.
Vous auriez pu en faire deux, une le matin, une l'après-midi.
Allez, bonne émission avec Estelle et rendez-vous demain 9h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.